Charles Dickens, Barnabé Rudge, traduction de M. Bonhomé. Chapitre 75. Un mois s'est écoulé, nous sommes dans la chambre à coucher de Sir John Chester. À travers la fenêtre entrouverte, le jardin du temple paraît vert et agréable. La paisible rivière, égayée par des bateaux et des barques, sillonnée par le battement des rames, étincelle au loin. Le ciel est clair et bleu, et l'air suave de l'été pénètre doucement dans la chambre, qu'il remplit de ses parfums. La ville même, cette ville de fumée, est radieuse. Ses toits élevés, ses clochers, ses dômes, ordinairement noirs et tristes, ont pris une teinte de gris clair qui est presque un sourire. Toutes les vieilles girouettes dorées, les boules, les croix qui surmontent les édifices brillent à nouveau au gai soleil du matin. Et, bien haut, au-dessus de tous les autres, domine Saint-Paul, montrant sa crête majestueuse d'or bruni. Sir John était en train de déjeuner dans son lit. Son chocolat et sa rôtie étaient placés près de lui sur une petite table. Des livres et des journaux étaient étalés sur le couvre-pied et, s'interrompant, tantôt pour jeter un coup d'œil de satisfaction tranquille autour de sa chambre rangée dans un ordre parfait, tantôt pour contempler d'un air indolent le ciel azuré, il continuait de manger, de boire et de lire les nouvelles, en homme qui sait savourer les douceurs de la vie élégante. La joyeuse influence du matin semblait produire quelque effet même sur son humeur toujours uniforme. Ses manières étaient plus gaies qu'à l'ordinaire, son sourire plus serein et plus agréable, sa voix plus claire et plus animée. Il déposa le journal qu'il venait de lire, se renfonça dans son oreiller de l'air d'un homme qui s'abandonne au cours d'une foule de charmants souvenirs et, après un moment de repos, s'adressa à lui-même le monologue suivant. Et mon ami le centaure, qui suit les traces de sa petite maman, cela ne m'étonne pas. Et son mystérieux ami, M. Dennis, qui prend le même chemin, cela ne m'étonne pas non plus. Et mon ancien facteur, ce jeune imbécile de Chigwell avec ses allures indépendantes, cela me fait infiniment de plaisir. Il ne pouvait rien lui arriver de plus heureux. Après s'être soulagé de ses réflexions, il retomba dans le cours de ses pensées souriantes, auxquelles il ne s'arracha plus que pour finir son chocolat, qu'il ne voulait pas laisser refroidir, et pour tirer la sonnette, afin qu'on lui en apportât encore une tasse. La tasse arrivée, il la prit des mains de son domestique et lui dit, en le congédiant avec une affabilité charmante, « Bien obligé, Pic !» C'est une circonstance bien remarquable, se dit-il d'un ton nonchalant, en jouant tranquillement avec sa petite cuillère, qu'il ne s'en est fallu de rien que mon ami l'imbécile s'échappa de là. Par bonheur, ou comme l'on dit dans le monde, par un cas providentiel, le frère de Milord le maire s'est trouvé juste à point à l'audience, avec d'autres juges de paix campagnards dont la tête épaisse n'a pu résister à la curiosité d'aller voir ça. Car bien que le frère de Milord le maire eût décidément tort et donna par sa déposition stupide une nouvelle preuve de sa parenté avec ce drôle de personnage, en déclarant que la tête de mon ami était très saine et qu'à sa connaissance il avait parcouru la province avec sa vagabonde mère pour y proclamer des sentiments révolutionnaires et séditieux, je ne lui en suis pas moins obligé d'avoir porté de lui-même ce témoignage. Ces créatures idiotes font quelquefois des observations si étranges et si embarrassantes qu'en vérité il n'y a rien de mieux à faire que de les pendre pour le repos de la société. Le juge de paix campagnard avait en effet tourné les chances contre le pauvre Barnabé et décidé les doutes qui faisaient pencher la balance en sa faveur. Grippe ne se doutait guère de la responsabilité qui pesait sur lui dans cette affaire. « Cela fera un trio singulier, » dit Sir John, s'appuyant la tête sur sa main et dégustant son chocolat. « Un trio très curieux, le bourreau en personne, le centaure et l'imbécile. Le centaure ferait un excellent sujet d'autopsie dans l'amphithéâtre de chirurgie et rendrait grand service à la science. J'espère qu'ils n'auront pas manqué de le retenir d'avance. »« Pic, je n'y suis pas, pour personne, excepté le coiffeur. » Cette recommandation à son domestique fut provoquée par un petit coup à la porte que Pic se dépêcha d'aller ouvrir. Après un chuchotement prolongé de demandes et de réponses, il revint et, au moment où il venait de fermer soigneusement derrière lui la porte de la chambre, on entendit tousser un homme dans le corridor. « Non, c'est inutile, Pic, » dit Sir John, levant la main pour lui faire signe qu'il pouvait s'épargner la peine de lui rendre compte de son message. « Je n'y suis pas, je ne puis pas vous entendre. Je vous ai déjà dit que je n'y étais pas, et ma parole est sacrée. Vous ne ferez donc jamais ce que je vous commande. » N'ayant rien à répondre à un ordre si péremptoire, l'homme allait se retirer, quand le visiteur, qui lui avait valu ce reproche, impatient d'attendre apparemment, cogna plus fort à la porte, en criant qu'il avait à communiquer à Sir John Chester une affaire urgente qui n'admettait point de retard. « Faites-le entrer, » dit Sir John. « Mon brave homme, » ajouta-t-il quand la porte fut ouverte, « comment pouvez-vous vous introduire si familièrement et d'une manière si extraordinaire dans les appartements particuliers d'un gentleman ? Comment pouvez-vous manquer ainsi à vous-même et vous exposer aux reproches mérités de vous montrer si mal élevé ?»
« L'affaire qui me mène, Sir John, n'est pas ordinaire, je vous assure, » répondit la personne à qui s'adressait ce mauvais compliment. « Et si je n'ai pas suivi les règles de la politesse ordinaire pour me présenter devant vous, j'espère que vous voudrez bien me le pardonner par cette considération. »«
À la bonne heure, nous verrons bien, » reprit Sir John, dont le visage s'éclaircit aussitôt qu'il eut vu celui de son visiteur et qui reprit tout à fait son sourire avenant. « Je crois que nous nous sommes déjà vus quelque part, » ajouta-t-il de son ton séduisant, « mais réellement, je ne me rappelle plus votre nom. Je m'appelle Gabriel Varden. »« Varden, ah oui, certainement, Varden, » reprit Sir John en se donnant une tape sur le front. « Mon Dieu, comme ma mémoire devient quinteuse. Certainement, Varden, monsieur le serrurier Varden. » Vous avez une charmante femme, monsieur Varden, et une bien belle fille. Ces dames se portent bien ?
Oui, monsieur, très bien. Je vous remercie.
J'en suis charmé. Rappelez-moi à leur souvenir quand vous allez les revoir. Et dites-leur que je regrette bien de ne pouvoir être assez heureux pour leur faire moi-même les compliments dont je vous ai chargé pour elles. Eh bien, demanda-t-il après un moment de silence, de l'air le plus mielleux, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Disposez de moi, ne vous gênez pas.
« Je vous remercie, Sir John, » dit Gabriel avec un peu de fierté, « mais ce n'est pas pour vous demander une faveur que je viens ici, c'est simplement pour une affaire particulière, » ajouta-t-il en jetant un coup d'œil du côté du domestique qui restait là à regarder, « une affaire très pressante. Je ne vous dirai pas que votre visite n'en est que plus agréable pour être désintéressé, et que vous n'eussiez pas été également le bienvenu si vous aviez eu à me demander quelque chose, car je me serais estimé heureux de vous rendre service. Mais enfin, soyez le bienvenu dans tous les cas. Faites-moi le plaisir, Pic, de me verser encore un peu de chocolat et de ne pas rester là. » Le domestique se retira et les laissa seuls. « Sir John, » dit Gabriel, « je ne suis qu'un ouvrier et je n'ai jamais été autre chose de ma vie. Si je ne sais pas bien vous préparer et entendre ce que j'ai à vous dire, si je vais tout droit au but un peu brusquement, si je vous donne un coup qu'un gentleman vous aurait mieux ménagé ou au moins adouci mieux que moi, j'espère que vous me serez toujours gré de l'intention, car j'ai bien le désir d'y mettre du soin et de la discrétion, et je suis sûr que, de la part d'un homme tout rond comme moi, vous prendrez l'intention pour le fait. « Monsieur Varden, » répliqua l'autre, sans être en rien déconcerté par cet exorde, « je vous prie de vouloir bien prendre une chaise. Je ne vous offre pas de chocolat, vous ne l'aimez peut-être pas, à la bonne heure. Ce n'est pas un goût primitif. » « Sir John, » dit Gabriel, qui avait reconnu par un salut l'invitation à lui faite de s'asseoir, sans vouloir en profiter, « Sir John, » il baissa la voix et s'approcha plus près de lui, « j'arrive tout droit de Newgate. » « Dieu du ciel !» s'écria Sir John, se mettant bien vite sur son séant dans son lit. « De Newgate, monsieur Varden ? Il n'est pas possible que vous ayez l'imprudence de venir de Newgate. De Newgate, où il y a des typhus de prison, des gens en guenilles, des va-nu-pieds, tant hommes que femmes, et un tas d'horreurs. Pic, apportez le camphre, vite, vite !» Ciel et terre, mon cher monsieur Varden, ma bonne âme, est-il vraiment possible que vous veniez de Newgate ? Gabriel, sans répondre, regardait seulement en silence, pendant que Pic, qui venait d'entrer à propos avec le supplément de chocolat tout chaud, courait ouvrir un tiroir et rapportait une bouteille dont il aspergeait la robe de chambre de son maître et toute la literie. Après quoi, il en arrosa le serrurier lui-même, à pleine main, et décrivit autour de lui un cercle de camphre sur le tapis. Cela fait, il se retira de nouveau, et Sir John, appuyé nonchalamment sur son oreiller, tourna encore une fois sa face souriante du côté de son visiteur. « Vous me pardonnerez, j'en suis sûr, monsieur Varden, de m'être montré si ému tout de suite, dans votre intérêt comme dans le mien. J'avoue que j'en ai été saisi, malgré votre exorde délicat. Voulez-vous me permettre de vous demander la faveur de ne pas approcher davantage? Réellement, est-ce que vous venez de Newgate ?» Le serrurier inclina la tête. « Vraiment? Eh bien alors, monsieur Varden, toute exagération et tout embellissement à part, » dit Sir John d'un ton confidentiel en savourant son chocolat, « quel genre d'endroit est-ce que Newgate ?»« C'est un endroit bien étrange, Sir John, » répondit le serrurier, « un endroit d'un genre bien triste et bien affligeant. Un endroit étrange où l'on voit et où l'on entend d'étranges choses. Mais il ne peut pas y en avoir de plus étrange que celle dont je viens vous entretenir. C'est un cas urgent. Je suis envoyé ici. Ce n'est toujours pas de la prison. Non, non, ce n'est pas possible. Si, de la prison, Sir John. » « Mais mon bon, mon crédule, mon brave ami, » dit Sir John en posant sa tasse pour rire aux éclats, « envoyé par qui donc ?»« Par un homme du nom de Dennis, qui, après en avoir tant pendu d'autres depuis des années, sera demain lui-même un pendu, » répondit le serrurier.
Sir John s'était attendu, il en était même sûr dès le commencement, qu'il lui dirait que c'était Hugues qui l'avait envoyé, et il tenait là-dessus sa réponse prête. Mais ce qu'il entendait là lui causa un degré d'étonnement que, pour le moment, malgré son habileté à composer son visage, il ne put s'empêcher de laisser percer dans ses traits. Cependant, il eut bientôt dissimulé ce léger trouble et dit du même ton léger « Et qu'est-ce que le gentleman veut de moi ?» « Ma mémoire peut bien encore me faire défaut, mais je ne me souviens pas d'avoir jamais eu le plaisir de lui être présenté ou de le compter au nombre de mes amis personnels, je vous assure, Varden. »« Sir John, » répondit le serrurier gravement, « je vais vous répéter aussi exactement que je pourrai, dans les termes mêmes dont il s'est servi, ce qu'il désire vous communiquer et ce qu'il faut que vous sachiez, sans perdre un instant. » Sir John Chester s'installa dans une position plus moelleuse encore et regarda son visiteur avec une expression qui semblait dire « Voilà un brave homme bien amusant, il faut que je l'entende jusqu'au bout. » « Peut-être avez-vous vu dans le journal, » dit Gabriel, en montrant celui que Sir John avait sous la main, « que j'ai déposé comme témoin contre cet homme dans son procès, il y a déjà quelques jours, et que ce n'est pas sa faute si j'ai vécu assez pour être à même de dire ce que j'avais vu. » « Peut-être, » cria Sir John, « comment pouvez-vous dire « peut-être » Mon cher monsieur Varden, vous êtes un héros et vous méritez bien de vivre dans la mémoire des hommes. Rien ne peut surpasser l'intérêt avec lequel j'ai lu votre déposition et avec lequel je me suis rappelé que j'avais le plaisir de vous connaître un peu. J'espère bien que nous allons faire publier votre portrait. » « Ce matin, monsieur, » dit le serrurier sans faire attention à ses compliments, « ce matin, de bonne heure, on m'a apporté de Newgate un message de la part de cet homme qui me priait d'aller le voir parce qu'il avait quelque chose de particulier à me communiquer. Je n'ai pas besoin de vous dire que ce n'est pas un de mes amis et que je ne l'avais même jamais vu avant le siège de ma maison par les insurgés. » Sir John s'éventa doucement avec le journal en faisant un signe de tête pour témoigner de son assentiment. « Cependant, » reprit Gabriel, « je savais par le bruit public que le mandat d'exécution pour le mettre à mort demain était arrivé la nuit dernière à la prison et, le regardant comme un homme in extremis, je cédai à sa demande. » « Vous êtes un vrai chrétien, monsieur Varden, » dit Sir John, « et cette aimable qualité de plus redouble le désir que je vous ai déjà exprimé de vous voir prendre une chaise. » Il m'a dit, continua Gabriel en regardant avec fermeté le chevalier, qu'il m'avait envoyé chercher parce qu'en sa qualité d'exécuteur des hautes œuvres, il n'avait ni ami ni camarade au monde et parce qu'il croyait, d'après la manière dont il m'avait vu déposer en justice, que je devais être un homme loyal qui agirait franchement et fidèlement avec lui.
Il ajouta qu'étant évité par chacun de ceux qui connaissaient sa profession, même par les gens du plus bas étage et de la plus misérable condition, et voyant, quand il était allé rejoindre les rebelles, que ceux auxquels il s'était associé ne s'en doutaient pas, et je crois qu'il m'a dit vrai, car il avait là pour camarade un pauvre imbécile d'apprenti que j'avais depuis longtemps à la boutique, il s'était bien gardé de leur livrer son secret jusqu'au moment où il avait été pris et mené en prison. « C'est très discret de la part de M. Dennis, » fit observer Sir John avec un léger bâillement, quoique toujours avec la plus extrême affabilité. « Mais, à l'exception de votre manière admirable et lucide de narrer, contre laquelle je n'ai rien à dire, ce n'est pas autrement intéressant pour moi. » Lorsque, poursuivit le serrurier sans se laisser intimider par ces interruptions auxquelles il ne faisait seulement pas attention, lorsqu'il fut mené en prison, il y trouva pour camarade de chambrée un jeune homme nommé Hugues, un des chefs de l'émeute qui avait été trahi et livré par lui. D'après quelques paroles échappées à ce malheureux, dans le cours de la conversation vive qu'ils échangèrent en se retrouvant, il découvrit que la mère de Hugues avait subi la même mort que celle qui leur était à tous deux réservée. « Le temps est bien court, Sir John. » Le chevalier posa son éventail de papier, remit sa tasse sur la table près de lui, et à l'exception du sourire qui perça dans le coin de sa bouche, il regarda le serrurier d'un air aussi assuré que le serrurier le regardait lui-même. « Voici maintenant un mois qu'ils sont en prison. » De fil en aiguille, le bourreau a bientôt reconnu par leur conversation, en comparant les dates, les lieux, les circonstances, que c'était lui-même qui avait exécuté la sentence prononcée contre cette femme par la loi. Tentée par le besoin comme tant d'autres, elle s'était laissée entraîner au délit fatal de passer de faux billets de banque. Elle était jeune et belle, et les industriels qui emploient des hommes, des femmes et des enfants à ce trafic jetèrent les yeux sur elle comme sur une personne faite pour réussir dans leur commerce, et probablement pour ne pas éveiller de longtemps les soupçons. Ils s'étaient bien trompés, elle fut arrêtée du premier coup et condamnée à mort pour son début. Elle était bohémienne de naissance, Sir John. Peut-être n'était-ce que l'effet d'un nuage qui obscurcit le soleil en passant et jeta une ombre sur la figure du chevalier, mais il devint d'une pâleur mortelle. Cela ne l'empêcha pas de soutenir, d'un œil ferme, l'œil du serrurier, comme auparavant. « Elle était bohémienne de naissance, Sir John, » répéta Gabriel, « et elle avait l'âme haute, indépendante. Raison de plus, avec sa bonne mine et ses manières distinguées, pour intéresser quelques-uns de ces gentlemen qui se laissent aisément prendre à des yeux noirs. On fit donc des efforts pour la sauver. On y aurait réussi si elle avait voulu seulement leur dire quelques mots de son histoire. Mais elle n'y consentit jamais. Elle s'obstina dans son silence. On eut même des raisons de soupçonner qu'elle attenterait à sa vie. On la mit en surveillance nuit et jour, et à partir de ce moment, elle n'ouvrit plus la bouche. » Sir John étendit la main vers sa tasse, mais le serrurier l'arrêta en chemin. « Excepté, ajouta-t-il, une minute avant de mourir. » Car alors, elle rompit le silence pour dire d'une voix ferme, qui ne fut entendue que de son exécuteur, lorsque toute créature vivante s'était retirée pour l'abandonner à son sort, « Si j'avais là une dague dans les doigts et qu'il fût à portée de mes mains, je la lui enfoncerais dans le cœur, même en ce moment suprême. » « À qui ça ?» demanda l'autre. « Au père de mon garçon, » dit-elle. Sir John retira sa main, et voyant que le serrurier s'était tu, il lui fit signe, avec la plus tranquille politesse et sans aucune émotion apparente, de continuer. C'était le premier mot qui lui fut échappé depuis le commencement, qui put faire soupçonner qu'elle eût aucun attachement sur la terre. « Et l'enfant est-il vivant ? » demanda-t-il. « Oui, » répondit-elle. Il lui demanda où il était, quel était son nom, et si elle avait quelque souhait à former pour lui. « Je n'en ai qu'un, c'est qu'il puisse vivre et grandir dans une ignorance absolue de son père, pour que rien au monde ne puisse lui apprendre ce que c'est que douceur et pardon. Quand il sera devenu un homme, je m'en fie au dieu de ma tribu pour le faire rencontrer avec son père et me venger par mon fils. » Il lui fit encore quelques questions, mais elle ne répondit plus rien. Encore, d'après le récit du bourreau, n'est-ce pas à lui qu'elle semblait dire ce peu de mots, car elle avait, pendant ce temps-là, les yeux levés vers le ciel, sans les tourner vers lui une seule fois. Sir John prit une prise de tabac en regardant d'un air approbateur une élégante esquisse représentant la nature sur muraille, et relevant les yeux vers le visage du serrurier, il lui dit d'un air de courtoisie protectrice « Vous alliez remarquer, monsieur Varden ?»« Que jamais !» répliqua Gabriel, qui ne se laissait pas démonter par tous ses semblants et n'en gardait pas moins son ton ferme et son regard assuré, « que jamais elle ne tourna les yeux vers lui, pas une seule fois, Sir John, et que c'est comme cela qu'elle mourut. » Lui, il l'eut bientôt oublié, mais quelques années après, un homme fut de même condamné à mort, un bohémien comme elle, un gaillard au teint brun et basané, une espèce d'enragé, et pendant qu'il était en prison, en attendant l'exécution, comme il avait vu bien des fois le bourreau avant d'être arrêté, il lui sculpta son portrait sur sa canne comme pour montrer qu'il bravait la mort et pour faire voir à ceux qui l'approchaient le peu de soucis qu'il avait de la vie. Arrivé à Tyburn, il lui remit sa canne entre les mains en lui disant que la femme dont il lui avait parlé avait déserté sa tribu pour aller trouver un gentleman et que se voyant ensuite abandonnée par son séducteur et répudiée par ses anciennes camarades, elle avait fait le serment dans son orgueil irrité de ne jamais plus demander aide ni secours à personne, quelle que fût sa misère. Il ajouta qu'elle avait tenu parole jusqu'au dernier moment et que le rencontrant dans les rues, même lui, qui, à ce qu'il paraît, l'avait autrefois tendrement aimé, elle avait fait un détour pour échapper à sa vue et qu'il ne l'avait plus revue depuis que le jour où, se trouvant dans un des fréquents rassemblements de Tyburn avec quelques-uns de ses rudes compagnons, il était devenu presque fou en la voyant, mais sous un autre nom, parmi les criminels dont il était venu contempler la mort. Là donc, debout sur la même planche où elle avait figuré avant lui, il raconta tout cela au bourreau et lui dit le vrai nom de la femme, qui n'était connue que de sa tribu et du gentleman pour l'amour duquel elle avait abandonné les siens. Ce nom, Sir John, il ne veut plus le dire qu'à vous. « Qu'à moi !» s'écria le chevalier, s'arrêtant dans le geste de porter sa tasse à ses lèvres, d'une main ferme comme un roc, et courbant en l'air son petit doigt pour déployer à son avantage la splendeur d'une bague de diamants dont il était orné, « qu'à moi, mon cher monsieur Varden. À quoi bon je vous prie me choisir tout exprès pour me faire cette confidence, quand il avait sous sa main un homme aussi digne que vous de toute sa confiance ?»« Sir John, répondit le serrurier, demain à midi, ces hommes-là seront morts. Écoutez le peu de mots que j'ai encore à vous dire, et n'espérez pas me tromper. » Car je ne suis, il est vrai, qu'un homme simple et humble de condition, tandis que vous, vous êtes un gentleman de haut rang et de grand savoir, mais la vérité m'élève à votre niveau, et je sais que vous devinez où j'en veux venir, et que vous êtes convaincu que Hugues, le condamné, est votre fils. « Par exemple, dit Sir John en le raillant d'un ton badin, je ne suppose pas que ce gentleman sauvage qui est mort si subitement soit allé jusque-là. » « C'est vrai, reprit le serrurier, car elle lui avait fait prêter serment, d'après un rite connu seulement de ces gens-là, et que les plus détestables parmi eux respectent comme sacré, de ne point dire votre nom. Seulement, il avait sculpté sur sa canne un dessin fantastique, où l'on voyait quelques lettres, et quand le bourreau l'a reçu de ses mains, l'autre lui recommanda particulièrement, s'il devait jamais rencontrer plus tard le fils de la bohémienne, de ne pas oublier l'endroit désigné par ces lettres. » Quel endroit ? Chester. Le chevalier acheva sa tasse de chocolat avec l'air d'y trouver un plaisir infini et s'essuya soigneusement les lèvres sur son mouchoir. Sir John, dit le serrurier, voilà tout ce qu'il m'a dit, mais depuis que ces deux hommes ont été laissés ensemble en attendant la mort, ils ont conféré ensemble très intimement. Allez les voir, allez entendre ce qu'ils peuvent vous dire de plus. Voyez ce Dennis. Il vous apprendra ce qu'il n'a pas voulu me confier à moi-même. Vous qui tenez maintenant le fil dans les mains, si vous voulez quelque confirmation de tous ces faits, rien ne vous est plus aisé. Ah ça, qu'est-ce donc, mon cher, mon bon, mon estimable monsieur Varden ? Car en vérité, malgré moi, je ne puis pas me fâcher contre vous, dit Sir John Chester en se relevant de son oreiller et s'appuyant sur son coude. Qu'est-ce donc que tout cela signifie ? Je vous prends pour un homme, Sir John, et je suppose que cela signifie qu'il faut réveiller quelque affection naturelle dans votre cœur, qu'il faut tendre tous vos nerfs et déployer toutes les facultés et l'influence dont vous pouvez jouir en faveur de votre misérable fils et de l'homme qui vous a révélé son existence. Au moins, devez-vous, je suppose, aller voir votre fils pour lui inspirer l'horreur de son crime et le sentiment du danger qui le menace, car pour le moment, il y est insensible. Jugez de ce qu'a dû être sa vie par ce que j'ai entendu dire, que si je réussissais à vous déranger le moins du monde, ce ne serait que pour faire hâter sa mort, si vous en aviez le pouvoir, parce qu'elle vous répondrait de son silence. « Est-il possible, mon bon monsieur Varden, dit Sir John d'un ton de doux reproche, est-il réellement possible que vous ayez vécu jusqu'à l'âge que vous avez et que vous soyez resté assez simple et assez crédule pour venir trouver un gentleman d'un caractère bien connu avec une pareille mission de la part de quelques misérables poussés à bout par le désespoir et qui se rattacherait à un fétu ? Dieu du ciel ! Ah, fi donc, fi donc ! » Le serrurier allait répliquer, mais l'autre l'arrêta. « Sur tout autre sujet, monsieur Varden, je serais charmé de converser avec vous, mais je dois à ma dignité d'ajourner cette question à un autre moment. » « Réfléchissez-y bien, monsieur, quand je vais être parti, » répondit le serrurier. « Réfléchissez-y bien. Quoique vous ayez trois fois, depuis quelques semaines, mis à la porte votre fils légitime, monsieur Edouard, vous pouvez avoir des années devant vous pour faire votre paix avec celui-là, Sir John. Mais ici, vous n'avez plus que 12 heures. C'est bientôt passé, et après cela, ce sera fini. »« Je vous remercie beaucoup, » répliqua le chevalier en envoyant de sa main délicate un baiser en forme d'adieu au serrurier. « Je vous remercie de votre avis ingénu. Je regrette seulement, mon brave homme, quoique vous soyez d'une simplicité charmante, que vous n'ayez pas avec cela un peu plus de connaissance du monde. Je n'ai jamais été plus contrarié qu'en ce moment d'être interrompu par l'arrivée de mon coiffeur. » Que Dieu vous bénisse, bonjour, n'oubliez pas, je vous prie, ma commission auprès de ces dames, monsieur Varden. Pic conduisait monsieur Varden jusqu'à la porte. Gabriel ne dit plus rien, il rendit seulement à Sir John un signe d'adieu et le quitta. Comme il sortait de la chambre, la figure de Sir John changea, et le sourire stéréotypé fit place à une expression égarée et inquiète, comme celle d'un acteur ennuyé, épuisé par le rôle difficile qu'il vient de jouer. Il se leva de son lit avec un soupir pénible et s'enveloppa dans sa robe de chambre. « Ainsi elle a tenu parole, » dit-il. « Elle a fidèlement exécuté sa menace. Je voudrais pour beaucoup n'avoir jamais vu cette sombre figure. Il était facile d'y lire, du premier coup, toutes ses conséquences. C'est une affaire qui ferait un bruit terrible si elle reposait sur un témoignage plus honnête, mais celui-là, avec tous les anneaux rompus qui empêchent de renouer la chaîne, je peux impunément le braver. C'est extrêmement désagréable d'être le père d'une créature si grossière. Pourtant, je lui avais donné un bon avis, je lui avais bien dit qu'il se ferait pendre. Qu'aurais-je pu faire de plus si j'avais su le secret de notre parenté? Car enfin, combien y a-t-il de pères qui n'en font pas même autant pour leur bâtard? Vous pouvez faire entrer le coiffeur, Pic. » Le coiffeur entra. Et dans Sir John Chester, dont la conscience accommodante fut bientôt tranquillisée par les nombreux exemples que lui fournissait sa mémoire à l'appui de sa dernière réflexion, il retrouva le même gentleman séduisant, élégant, imperturbable, qu'il avait vu la veille, l'avant-veille et toujours.
Chapitre 76. En s'en allant tout doucement de chez Sir John Chester, le serrurier ralentit encore son pas sous les arbres qui ombrageaient l'entrée, avec une sorte d'espérance qu'on allait peut-être le rappeler. Il était revenu déjà sur ses pas et s'arrêtait encore au détour de la rue quand l'horloge sonna 12 fois. 12 heures, tintement solennel, non pas seulement en pensant à demain, mais il savait que c'était le glas funèbre de l'assassin. Il l'avait vu passer dans la rue encombrée par la foule, au milieu des imprécations de la multitude,
Il avait remarqué sa lèvre frémissante et ses membres tremblants, la couleur plombée de sa face, son front gluant, son œil égaré, la crainte de la mort qui absorbait chez lui toute autre pensée et qui lui dévorait sans pitié le cœur et la cervelle. Il avait remarqué son regard errant, en quête de quelque espérance et ne rencontrant, de quelque côté qu'il se tournât, que le désespoir. Il avait vu cette créature agitée par son crime, pitoyable et désolée, conduite avec sa bière à côté d'elle dans la charrette jusqu'au gibet. Il savait que jusqu'à la fin, il était resté inflexible, obstiné, que dans la terreur sauvage de sa condition, il s'était plutôt endurci qu'attendri à l'égard de sa femme et de son fils, que ses dernières paroles avaient été des paroles de malédiction contre eux, comme étant ses ennemis. M. Herdel avait résolu d'y aller pour s'assurer par ses yeux du dénouement. Il n'y avait que le témoignage de ses sens qui put satisfaire cette soif ardente de vengeance qui le tenait en haleine depuis tant d'années. Le serrurier le savait et, quand les cloches eurent cessé leur carillon, il courut à sa rencontre. « Quant à ces deux hommes, lui dit-il en arrivant, je ne peux plus rien faire. Que le ciel ait pitié d'eux. Hélas, je ne peux rien faire pour eux ni pour d'autres. » Mary Rudge aura un gîte et elle est assurée d'un ami fidèle qu'elle retrouvera au besoin. Mais Barnabé, le pauvre Barnabé, le bon Barnabé, quel service puis-je lui rendre ? Il y a bien des hommes dans leur bon sens, Dieu me pardonne, cria l'honnête serrurier en s'arrêtant dans une cour étroite qu'il traversait pour passer sa main sur ses yeux humides, que je me résignerai plus facilement à perdre que Barnabé. Nous avons toujours été bons amis, mais je ne savais pas, non, je n'ai jamais su jusqu'à ce jour, combien j'aimais ce garçon-là. Il n'y avait pas grand monde dans la ville qui pensât à Barnabé ce jour-là, si ce n'est comme à l'acteur principal du spectacle qu'on allait donner au peuple le lendemain. Mais quand toute la population y aurait songé pour souhaiter de voir épargner sa vie, il n'y en avait pas un parmi eux qui l'eût fait avec un zèle plus pur ni avec une plus grande sincérité de cœur que le bon serrurier. Barnabé devait mourir, il n'y avait plus d'espérance. Ce n'est pas le moindre des maux qui résulte de cette punition suprême et terrible, la peine de mort, qu'elle endurcit les cœurs de ceux qui ont affaire à elle, et fait des hommes les plus aimables d'ailleurs, les êtres les plus indifférents à la grande responsabilité qui pèse sur eux, souvent même ils ne s'en doutent pas. On avait prononcé la sentence qui condamnait à mort Barnabé. On la prononçait tous les mois pour des crimes plus légers. C'était une chose si ordinaire qu'il y avait bien peu de personnes que cet arrêt épouvantable fit tressaillir ou qui se donnassent la peine d'en discuter la légitimité. Cette fois encore, cette fois surtout, où la loi avait été outragée d'une manière si flagrante, il fallait assurer, disait-on, la dignité de la loi. Le symbole de sa dignité, gravé à chaque page du code criminel, c'était la potence, et Barnabé devait mourir. On avait essayé de le sauver. Le serrurier avait porté pétition sur pétition, mémoire sur mémoire, de ses propres mains à la source des grâces, mais la source des grâces n'était pas, comme dans la Bible, la fontaine de miséricorde, et Barnabé devait mourir. Depuis le commencement, sa mère ne l'avait pas quitté un moment, excepté la nuit, et en la trouvant à ses côtés, il était content, comme toujours. Ce jour-là, qui devait être le dernier pour lui, il fut plus animé et plus fier qu'il ne l'avait encore été, et quand elle laissa tomber de ses mains le saint livre qu'elle venait de lui lire tout haut pour lui sauter au cou, il s'arrêta dans le soin empressé qu'il prenait de rouler un morceau de crêpe autour de son chapeau, tout surpris des angoisses de sa mère. Grippe proféra un faible croassement, moitié encouragement à ce qu'on pouvait croire, moitié remontrance. Mais il n'eut pas le cœur d'aller plus loin et retomba brusquement dans un profond silence. Pendant qu'ils étaient là, sur le bord de ce grand golfe au-delà duquel personne ne peut voir l'océan, le temps, qui allait bientôt lui-même se perdre dans le vaste abîme de l'éternité, roulait avec eux comme un puissant fleuve qui enfle et précipite son cours à mesure qu'il approche de la mer. C'est à peine si le matin était arrivé, ils étaient restés assis à causer ensemble, comme dans un rêve, et déjà venait le soir. L'heure redoutable de la séparation. qui hier encore semblait si éloigné, allait sonner. Ils marchaient ensemble dans la cour des condamnés, sans se quitter l'un l'autre, mais sans parler. Barnabé trouvait que la prison était un séjour pénible, lugubre, misérable, et espérait le lendemain comme un libérateur qui allait l'arracher à ce lieu de tristesse pour le conduire vers un lieu de lumière et de splendeur. Il avait une idée vague qu'on s'attendait à le voir se conduire en brave, qu'il était un homme d'importance, et que les geôliers seraient trop contents de le surprendre à verser des larmes. À cette pensée, il foulait la terre d'un pied plus ferme en recommandant à sa mère de prendre courage et de ne plus pleurer. « Sentez ma main, lui disait-il. Vous voyez bien qu'elle ne tremble pas. Ils me traitent d'imbécile, ma mère, mais ils verront demain. » Denis et Hugues étaient dans la même cour. Hugues sortit de sa cellule en même temps qu'eux, s'étirant les membres comme s'il venait de dormir. Denis était assis sur un banc dans un coin, son menton enfoncé dans ses genoux, et il se balançait de haut en bas, comme une personne qui souffre des douleurs atroces. La mère et le fils restèrent d'un côté de la cour et ses deux prisonniers de l'autre. Hugues marchait à grands pas de long en large, jetant de temps à autre un regard farouche vers le ciel brillant d'un jour d'été, puis se retournant après cela pour regarder la muraille. « Pas de sursis, pas de sursis, personne ne vient. Nous n'avons plus que la nuit à présent, » disait Denis d'une voix faible et gémissante en se tordant les mains. « Croyez-vous qu'ils vont m'accorder mon sursis ce soir, camarade ? Ce ne serait pas la première fois que j'aurais vu arriver des sursis la nuit. J'en ai vu qui n'arrivaient qu'à 5, 6 et même 7 heures du matin. Ne pensez-vous pas qu'il me reste encore quelques bonnes chances, n'est-ce pas ? Dites-moi que oui, jeune homme !» criait la misérable créature avec un geste suppliant, implorant Barnabé, « ou je vais devenir fou !»« Il vaut mieux être fou ici que dans son bon sens. Tu n'as qu'à devenir fou, » lui dit Hugues. « Mais dites-moi donc ce que vous en pensez. Comment, quelqu'un ne me dira pas ce qu'il en pense ?» continuait le malheureux, si humble, si misérable, si abject, que la pitié en personne aurait tourné le dos en voyant tant de bassesse sur la figure d'un homme. « Ne me reste-t-il plus une chance, pas une seule chance favorable ? N'est-il pas vraisemblable qu'il ne tarde tant que pour me faire peur ? N'est-ce pas que vous le croyez ? Oh ! Ajoutait-il avec un cri perçant, en se tordant toujours les mains, « personne ne veut donc me consoler. C'est vous qui devriez montrer le plus de courage, et c'est vous qui en montrez le moins, » dit Hugues en s'arrêtant devant lui. « Voyez-vous, le bourreau, quand c'est à son tour. « Vous ne savez pas ce que c'est, vous !» criait Denis, qui se tordait en deux tout en parlant. « Moi, je le sais. Comment je pourrais être exécuté, moi, en venir là ?» « Et pourquoi pas ?» dit Hugues, rejetant de côté ses mèches de cheveux pour mieux voir son ancien collègue de révolte. « Que de fois avant de connaître votre état, vous ai-je entendu parler de ça, de manière à en faire venir l'eau à la bouche ?»« Je suis toujours le même, j'en parlerais encore de même, si j'étais encore bourreau, c'en est un autre que moi qui hérite de mon opinion à l'heure qu'il est. C'est bien ce qui m'afflige le plus. Il y a quelqu'un, à présent, qui m'attend avec impatience pour m'exécuter, je sais bien par moi-même ce qui en est. » « Il n'a pas longtemps à attendre, » dit Hugues en reprenant sa promenade. « Vous n'avez qu'à vous dire cela pour vous tranquilliser. » Quoiqu'un de ces deux hommes étalât dans ses paroles et son attitude l'immobilité la plus absolue, et que l'autre, dans chaque mot, dans chaque geste, fît preuve d'une lâcheté si abjecte que c'était humiliant de le voir, il était difficile de dire quel était celui des deux qui présentait le spectacle le plus repoussant et le plus dégoûtant. Chez Hugues, c'était le désespoir obstiné d'un sauvage attaché au poteau funeste. Le bourreau, au contraire, était réduit à l'état d'un chien qu'on va noyer et qui a déjà la corde au cou. Cependant, M. Denis aurait pu dire, car il le savait bien par expérience, que ce sont là les deux formes les plus ordinaires chez les patients qui vont sauter le pas. Telle est en gros la belle récolte du grain semé par la loi qu'on regardait généralement cette moisson comme une chose toute naturelle. Il y avait cependant des points par lesquels ils se ressemblaient tous. Le cours errant et fatal de leurs pensées, qui les ramenait à des souvenirs subits de choses anciennes dans le passé, depuis longtemps oubliées, sans relations entre elles, le vague besoin qui les tourmentait sans cesse de quelque chose d'indéfini que rien ne pouvait leur donner, la fuite ailée des minutes qui formaient des heures comme par enchantement, la venue rapide de la nuit solennelle, l'ombre de la mort planant toujours sur eux, dont cependant l'obscurité ténébreuse n'empêchait pas les détails les plus communs et les plus triviaux de surgir au milieu de l'horreur dont ils étaient frappés, pour les forcer à les contempler, l'impossibilité de conserver leur esprit quand ils y eussent été disposés dans un état de pénitence et de préparation dernière, ou même de le tenir fixé sur toute autre chose que l'image hideuse qui fascinait toutes leurs facultés, voilà ce qu'ils avaient tous de commun. Il n'y avait de différence que dans les signes extérieurs. « Allez, nous chercher le livre que j'ai laissé là-dedans, sur votre lit, » dit-elle à Barnabé en entendant sonner l'heure. « Embrassez-moi d'abord. » Il regarda son visage et vit bien dans ses traits que le moment était venu. Après s'être tenus longtemps dans les bras l'un de l'autre, il s'arracha de ceux de sa mère en lui recommandant de ne pas bouger avant son retour. Il ne fut pas long à revenir, car il avait été rappelé par un cri déchirant, mais elle était partie. Il courut à la porte de la cour pour regarder au travers et vit qu'on l'emportait. Elle lui avait dit que son cœur se briserait. Hélas, plût à Dieu. « Ne croyez-vous pas, » lui dit Denis en pleurnichant et en se traînant jusqu'à lui pendant qu'il était là, debout, le pied enraciné dans le sol, à regarder la muraille nue et vide. « Ne croyez-vous pas qu'il me reste encore quelque chance ?» C'est une fin si terrible pour un homme comme moi. Ne croyez-vous pas qu'il se trouvera quelque chance, je ne dis pas pour vous, mais pour moi. Parlez bas, que celui-là, montrant Hugues, ne nous entende pas. C'est un tel garnement. Allons, dit le gardien, qui venait de faire sa ronde en dedans et en dehors, avec les mains dans ses poches, et qui bâillait comme s'il s'ennuyait à mourir. Allons, mes gars, il est temps de rentrer. « Non, pas encore !» cria Denis. « Pas encore. Il s'en faut d'une heure. »« Dites donc, il paraît que votre montre a bien changé d'allure, » reprit le gardien. « J'ai vu le temps où elle avançait, mais elle a maintenant le défaut contraire. »« Mon ami !» criait la misérable créature en tombant à genoux. « Mon cher ami, car vous avez toujours été mon cher ami, il faut qu'il y ait quelque méprise. Il y a, j'en suis sûr, quelque lettre égarée, quelque messager qui aura été arrêté en route. » Qui sait s'il n'est pas tombé de mort subite? J'ai vu comme cela une fois un homme tomber raide mort dans la rue, je l'ai vu de mes yeux, et même il avait des papiers dans sa poche. Envoyez demander que quelqu'un aille aux informations. Il n'est pas possible, il n'est pas possible qu'il veuille me pendre, c'est tout à fait impossible. Mais si, j'y pense, ils veulent me pendre par surprise, et c'est pour cela qu'ils retiennent la grâce qu'on m'a faite. C'est un complot contre ma vie. Ils veulent que je la perde. » Et poussant un autre hurlement, il tomba par terre dans une crise de nerfs. « Voyez-vous le bourreau, quand c'est son tour ?» répéta Hugues pendant qu'on emportait son camarade. « Courage, brave Barnabé. Ça ne nous fait rien à nous. Votre main. D'ailleurs, ils font bien de nous retirer du monde. Car s'ils nous relâchaient, nous ne les tiendrions pas quitte à si bon marché, hein? Encore une poignée de main. On ne meurt qu'une fois. Si vous vous réveillez la nuit, vous n'avez qu'à vous bercer avec ce gai refrain. Et vous retomberez tout de suite, la tête sur l'oreiller. Barnabé jeta encore un coup d'œil par la grille de la cour, qui était vide maintenant. Puis il regarda Hugues, enjambé hardiment le pas qui conduisait à son cachot. Il l'entendit crier « Bravo !» et partir d'un grand éclat de rire en faisant tourner son chapeau au-dessus de sa tête. Alors, il s'en alla lui-même comme un somnambule, aussi insensible à la crainte ou au chagrin, et se jeta sur sa paillasse, écoutant l'heure qu'allait sonner l'horloge. Chapitre 77. Le temps passa, le tapage des rues devenait moins fréquent petit à petit, jusqu'à ce qu'enfin le silence ne fût plus guère interrompu que par les cloches des tours de l'église marquant la marche
plus lente et plus discrète pendant le sommeil de la ville endormie, de ce grand veilleur à tête grise qui ne connaît pour lui ni sommeil ni repos. Dans le court intervalle des ténèbres et du calme dont jouissent les villes après la fièvre de la journée, tout bruit d'affaires s'éteint et ceux qui par hasard s'éveillent de leurs songes restent à écouter dans leur lit, à soupirer après l'aube, à regretter que la fin de la nuit ne soit pas encore écoulée. Dans la rue, en dehors du long mur de la prison, des ouvriers vinrent en flânant à cette heure solennelle, par groupes de deux ou trois, et en se rencontrant sur la chaussée, ils posèrent leurs outils par terre et se mirent à chuchoter entre eux. D'autres sortirent bientôt de la prison même, portant sur leur dos des planches et des charpentes. Quand ils eurent sorti tous ces matériaux, les premiers se mirent à la besogne à leur tour, et le son lugubre des marteaux commença à retentir dans les rues jusque-là silencieuses. Ça et là, parmi ces ouvriers réunis, on en voyait un, avec une lanterne ou une torche fumante à la main, se tenir auprès des autres pour les éclairer dans leur travail, et à l'aide de cette lueur douteuse, on en entrevoyait quelques-uns dans l'ombre qui arrachaient des pavés sur le chemin, pendant que d'autres tenaient tout droit de grands poteaux ou les fixaient dans des trous préparés d'avance pour les recevoir. D'autres amenaient lentement à leurs camarades une charrette vide qui grondait derrière eux en sortant de la prison, pendant que d'autres enfin dressaient de longues barricades en travers de la rue. Ils étaient tous très occupés à leur ouvrage, leurs figures sombres qui se mouvaient de droite et de gauche à cette heure inaccoutumée, si active et si silencieuse, auraient pu passer pour des ombres de revenants employés à l'heure de minuit à quelque ouvrage fantastique qui s'évanouirait comme elles au chant du coq au premier rayon du jour, ne laissant plus à leur place que le brouillard et les vapeurs du matin. Tant qu'il fit encore noir, il s'amassa sur la place un petit nombre de curieux qui étaient venus tout exprès avec l'intention d'y rester. Ceux-mêmes qui ne traversaient la place qu'en passant pour aller ailleurs s'arrêtaient là quelque temps comme par un attrait irrésistible. Cependant, le bruit de la scie et du maillet allait son train gaillardement, mêlé au fracas des planches qu'on jetait sur le pavé de la chaussée et de temps en temps aux voix des ouvriers qui s'appelaient les uns les autres. Toutes les fois qu'on entendait le carillon de l'église voisine, et c'était à chaque quart d'heure, une étrange sensation instantanée et inexprimable, mais bien visible, courait comme un frisson sur le corps de tous les assistants. Petit à petit, on vit apparaître à l'Orient une faible lueur, et l'air qui était resté chaud toute la nuit devint froid et glacé. Ce n'était pas encore le jour, mais l'obscurité diminuait et les étoiles pâlissaient. La prison, qui n'avait été jusque-là qu'une masse noire, sans figure et sans forme, prit son aspect accoutumé, et de temps à autre, on put voir sur son toit un veilleur solitaire s'arrêter pour regarder de là les préparatifs qu'on faisait dans la rue. Comme cet homme faisait en quelque sorte partie de la prison même, et qu'il savait, ou du moins on pouvait le supposer, tout ce qui s'y passait, il devenait par cela même l'objet d'un intérêt particulier, et on regardait sa silhouette, on se la montrait les uns aux autres avec autant de vivacité que si c'était un esprit. Cependant, la faible lueur devint plus éclatante et les maisons, avec leurs inscriptions et leurs enseignes, se détachèrent distinctement sur le fond grisâtre du matin. De grosses voitures publiques sortirent lourdement de la cour d'auberge vis-à-vis, avec les voyageurs avançant la tête pour avoir leur part du coup d'œil, et en s'en allant qu'à un qu'à un, chacun d'eux jetait en arrière un dernier regard sur la prison. Puis, bientôt, les premiers rayons du soleil vinrent éclairer la rue, et l'œuvre nocturne qui, dans ses divers progrès et surtout dans l'imagination variée des spectateurs, avait pris sans forme successive, possédait enfin sa vraie et due forme, c'était un échafaud et un gibet. Dès que la chaleur d'un jour éclatant commença à se faire sentir à la foule encore peu épaisse, on entendit les langues se délier, les volets s'ouvrir, les jalousies se tirer. Les personnes qui avaient couché dans des appartements de l'autre côté de la prison et qui avaient de bonnes places à louer à grand prix pour voir l'exécution sortirent de leur lit à la hâte. Dans plusieurs maisons, les gens étaient occupés à relever les châssis des croisées pour la plus grande commodité des spectateurs. Il y en avait même d'autres où les spectateurs étaient déjà à leur poste, assis sur leurs chaises, et jouant aux cartes, ou buvant, ou plaisantant ensemble, pour passer le temps. Quelques-uns avaient loué des places jusque sur le toit,
et on les voyait déjà grimper pour les prendre par le parapet ou par les fenêtres des greniers. Quelques autres, ne trouvant pas leur place assez bonne, hésitaient à les occuper et restaient debout dans un état d'indécision, contemplant en bas la foule qui grossissait successivement, avec les ouvriers qui se reposaient nonchalamment contre l'échafaud, et affectant de se montrer peu sensibles à l'éloquence du propriétaire qui leur vantait le magnifique coup d'œil qu'on avait de la maison et le bon marché qu'il en demandait. Jamais on n'avait vu plus belle matinée du haut des toits et des étages supérieurs de ces bâtiments. Les clochers des églises de Londres et le dôme de la grande cathédrale appelaient les regards bien au-dessus de la prison, découpés sur un ciel bleu et colorés par les nuages légers d'un jour d'été, montrant dans une atmosphère pure et claire jusqu'aux dessins dentelés de leur architecture toutes leurs niches et leurs ouvertures. Tout était lumière et bonheur, excepté en bas dans la rue, encore dans l'ombre, l'œil plongé là dans une grande fosse sombre où, au milieu de tant de vie et d'espérance, au milieu de cette renaissance générale, était dressé le terrible instrument de mort. On aurait dit que le soleil même ne pouvait pas se décider à regarder par là. Mais cet appareil lugubre était encore mieux ainsi, triste et caché dans l'ombre, qu'au moment où la journée étant plus avancée, il étala dans la pleine gloire du soleil brillant sa peinture noire toute craquelée et ses nœuds coulants qui se balançaient à la lumière du jour comme des guirlandes hideuses. Il était mieux dans la solitude et la tristesse de l'heure de minuit, avec un petit nombre de formes vivantes groupées autour de lui, qu'à la fraîcheur du matin, signal du réveil de la vie, au centre d'une foule avide. Il était mieux quand il hantait la rue comme un spectre, pendant que tout le monde était couché et qu'il ne pouvait infecter de son influence que les rêves de la ville, que lorsqu'il vint braver le grand jour et salir de sa présence impure les sens des citoyens éveillés. 5 heures étaient sonnées, puis 6, puis 8. Le long des 2 grandes rues, à chaque bout de la place, il y avait maintenant un torrent de monde qui roulait ses flots vivants vers les rendez-vous d'affaires et les marchés où les appelait l'amour du gain. Les charrettes, les diligences, les fourgons, les camions, les diables et les brouettes se frayaient de force un passage à travers les derniers rangs de la foule pour se rendre dans la même direction. Les voitures publiques qui venaient des environs s'arrêtaient et le conducteur montrait avec son fouet le gibet, quoiqu'il eût pu s'en épargner la peine, car ces voyageurs n'avaient pas besoin de cela pour tourner tous la tête de ce côté, et les portières étaient tapissées d'yeux tout grands ouverts. Dans quelques charrettes et quelques fourgons, on pouvait voir des femmes jetant avec épouvante un coup d'œil du côté de cette horrible machine. Il n'y avait pas jusqu'aux petits enfants que leur papa tenait au-dessus de leur tête dans la foule pour leur faire voir le beau joujou qu'on appelle une potence, et pour leur apprendre comment on pend un homme. On devait mettre à mort devant la prison 2 des insurgés qui avaient pris part à l'attaque dirigée contre elle. Immédiatement après, on devait en exécuter un autre dans Bloomsbury Square. À 9 heures, un fort détachement de soldats se mit en marche dans la rue, se forma en double haie et ne laissa qu'un étroit passage dans Holborn, qui avait été tant bien que mal occupé toute la nuit par les gendarmes. À travers les rangs de la troupe, on amena une autre charrette. Celle dont nous avons déjà parlé servait à la construction de l'échafaud et on la roula jusqu'à la porte de la prison. Après ces préparatifs, les soldats purent mettre l'arme au pied. Les officiers se promenaient de long en large dans le passage qu'ils avaient pratiqué ou causaient ensemble au pied de l'échafaud. Quant à la foule, qui s'était rapidement accrue depuis quelques heures et qui recevait encore de nouveaux renforts à chaque minute, elle attendait midi avec une impatience que redoublait chaque carillon de l'horloge du Saint-Sépulcre. Jusqu'à ce moment, la foule était restée tranquille et même, vu les circonstances, comparativement silencieuse, excepté quand l'arrivée de quelques nouvelles sociétés à une fenêtre encore inoccupée fournissait l'occasion de regarder par là et de faire quelques observations. Mais à mesure que l'heure approchait, il s'éleva un bourdonnement, un murmure, qui, croissant de moment en moment, finit par devenir un tumulte assez fort pour remplir l'air d'alentour. Il n'y avait pas moyen d'entendre distinctement des mots ni même des voix dans cette clameur, et d'ailleurs on ne se parlait guère les uns aux autres, si ce n'est que, par exemple, ceux qui se prétendaient mieux informés disaient peut-être à leurs voisins qu'ils reconnaîtraient bien le bourreau quand il paraîtrait parce qu'il était plus petit que l'autre, ou bien que l'homme qui devait être pendu avec lui s'appelait Hugues, et que c'était Barnabé Rudge qu'on pendrait à Bloomsbury Square. À l'approche du moment fatal, le bourdonnement devint si fort que ceux qui étaient aux fenêtres ne pouvaient pas entendre sonner l'heure à l'horloge de l'église, quoiqu'elle fût tout près d'eux. Il est vrai qu'ils n'avaient pas besoin de l'entendre, ils pouvaient bien la voir sur le visage des gens. Il n'y avait pas plus tôt un nouveau quart de sonner qu'il se faisait un mouvement dans la foule, comme s'il venait de leur passer quelque chose sur la tête, comme s'il y avait un changement subit dans la température, et dans ce mouvement, on pouvait lire le fait comme sur un cadran d'airain avec le bras d'un géant pour aiguille. 11h15, le murmure devient étourdissant, et cependant, chacun a l'air d'être muet. Regardez partout où vous voudrez dans la foule, et vous ne voyez que des yeux tendus, des lèvres serrées. L'observateur le plus vigilant aurait eu bien de la peine à vous montrer tel point ou tel autre, et à vous dire « Tenez, c'est l'homme de là-bas qui vient de crier. » Il serait aussi facile de voir une huître remuer les lèvres dans son écaille. 11h15. Bon nombre de spectateurs qui s'étaient retirés de leurs fenêtres reviennent, restaurés, comme si c'était l'heure juste où ils doivent reprendre leur faction. Ceux qui s'étaient endormis se réveillent, et chacun dans la foule fait un dernier effort pour se ménager une meilleure place, ce qui occasionne une presse effrayante contre les balustrades et les fait céder et ployer sous le poids comme de simples roseaux. Les officiers qui jusque-là s'étaient tenus en groupe vont reprendre leurs positions respectives et commander la manœuvre, le sabre en main. « Portez armes !» Et l'acier poli, en circulant à travers la foule, brille et s'agite au soleil comme les eaux d'un fleuve. Au milieu de cette traînée éclatante, deux hommes amènent vivement un cheval qu'on se dépêche d'atteler à la charrette qui est à la porte de la prison. Puis un profond silence remplace le tumulte qui n'avait fait jusque-là que s'accroître, et après cela, un moment de calme pendant lequel tout le monde retient sa respiration. Pour le coup, chaque croisée était bouchée par les têtes étagées les unes sur les autres, les toits grouillaient de gens qui s'attachaient aux cheminées, qui avançaient le corps par-dessus les gouttières, qui se tenaient n'importe où au risque de se voir entraînés sur le pavé de la rue par la première tuile qui viendrait à leur manquer dans la main. La tour de l'église, le toit de l'église, le cimetière de l'église, les plombs de la prison jusqu'aux tuyaux de descente et aux poteaux de réverbère, il n'y a pas un pouce de terrain qui ne fourmille de créatures humaines. Au premier coup de midi, la cloche de la prison commença à tinter. Alors, le tumulte mêlait maintenant des cris de « à bas les chapeaux » et de « les pauvres diables » et par-ci par-là dans la foule de quelques cris et de quelques gémissements, éclata avec une force nouvelle. C'était affreux à voir, si on n'avait rien pu voir dans ce moment d'excitation et de terreur, tout ce pêle-mêle, Dieu avide, braqué sur l'échafaud et la potence. Le murmure sourd se faisait entendre dans la prison aussi distinctement qu'au dehors. Pendant qu'il résonnait dans l'air, on amena les trois prisonniers dans la cour. Ils savaient bien ce que c'était que tout ce bruit. « Entendez-vous ? » cria Hugues sans en éprouver aucun souci. « Ils nous attendent. Je les ai entendus qui commençaient à se rassembler quand je me suis éveillé cette nuit et je me suis retourné de l'autre côté pour me rendormir tout de suite. Nous allons voir l'accueil qu'ils vont faire au bourreau à présent que c'est son tour. » L'aumônier qui arrivait justement en ce moment le gronda de sa joie indécente et l'avertit de changer de conduite. « Et pourquoi ça, notre maître ?» dit Hugues. « Qu'est-ce que je peux faire de mieux que de ne pas m'en désoler ?» « Il me semble que vous ne vous en désolez pas trop non plus. »« Oh, vous n'avez pas besoin de me le dire, » cria-t-il au moment où l'autre allait parler. « Vous n'avez pas besoin de prendre vos airs tristes et solennels. Je sais bien que vous ne vous en souciez guère. On dit qu'il n'y a personne comme vous dans Londres pour savoir faire une salade de homard. Je savais ça, comme vous voyez, avant de venir ici. Allez-vous en avoir une bonne ce matin. Avez-vous jeté un coup d'œil au déjeuner ?» J'espère qu'il y en a à gogo pour toute cette compagnie affamée qui prendra place à table avec vous quand la comédie sera finie. Je crains bien, fit observer le ministre en secouant la tête, que vous ne soyez incorrigible. Vous avez raison, je le suis, répliqua Hugues sévèrement. Pas d'hypocrisie, notre maître. Puisque c'est pour vous un jour de plaisir et de régal tous les mois, laissez-moi me régaler et prendre du plaisir à ma manière. S'il vous faut absolument un garçon qui se meurt de peur, il y en a là un qui fera bien votre affaire. Vous n'avez qu'à essayer votre pouvoir sur lui. » En même temps, il lui montra Dennis, que deux hommes tenaient entre eux, se traînant à peine sur ses jambes et si tremblant que toutes ses articulations et ses jointures avaient l'air d'être agitées par des convulsions. Puis, détournant la tête de cet ignoble spectacle, il appela Barnabé, qui se tenait à part.
« Courage, Barnabé ! Ne te laisse pas abattre, mon garçon. C'est bon pour lui !»«
Ma foi !» cria Barnabé en s'approchant vers lui d'un pas léger. « Je n'ai pas peur, Hugues. Je suis très content. On m'offrirait maintenant de me laisser la vie que je n'en voudrais pas. Regardez-moi, trouvez-vous que j'ai l'air d'avoir peur de mourir ? Croyez-vous qu'ils pourront me voir trembler, moi ?»
Hugues contempla un moment ses traits où il y avait un sourire étrange qui n'était pas de ce monde. Son œil vif étincela et se mettant entre lui et l'aumônier, il murmura rudement quelques mots à l'oreille de ce dernier.
« Tenez, notre maître, si j'étais à votre place, je ne lui en dirais pas bien long. Vous avez beau avoir l'habitude de ces choses-là. Cette fois-ci, ça pourrait vous gâter l'appétit pour votre déjeuner. »
Barnabé était le seul des trois condamnés qui se fût levé et eut fait sa toilette le matin. Les autres n'y avaient pas songé seulement une fois depuis que leur sentence avait été prononcée. Il portait encore à son chapeau les débris de ses plumes de paon et tous ses atours ordinaires étaient disposés sur sa personne avec le même soin. Son œil de feu, son pas ferme, son port fier et résolu auraient fait honneur à quelque haut exploit de véritable héroïsme, à quelque acte de sacrifice volontaire, inspiré par une noble cause et un honnête enthousiasme. Quel dommage de les voir honorer la mort d'un rebelle. Mais tout cela ne faisait encore qu'ajouter à son crime. C'était le comble de l'audace. Ainsi il avait déclaré l'arrêt. Il fallait bien que cela fût. Le bon ministre lui-même avait été grandement choqué, pas plus tard qu'un quart d'heure avant, de voir comme il avait fait ses adieux à Grippe. Un homme, dans sa position, s'amusait à caresser un oiseau. La cour était pleine de gens, de fonctionnaires civils de bas étage, d'officiers de justice, de soldats, d'amateurs et d'étrangers qu'on avait invités à venir là comme à la noce. Hugues regardait autour de lui, faisait d'un air sombre un signe de tête à quelque autorité qui lui indiquait de la main par où il devait avancer, et donnant une tape sur l'épaule de Barnabé, il passait outre avec la démarche d'un lion. Ils entrèrent dans une grande chambre, si voisine de l'échafaud qu'on pouvait de là très bien entendre ceux qui se tenaient contre les barrières, demander avec insistance aux hallebardiers de les enlever de la foule où ils étouffaient, et d'autres crier à ceux de derrière de reculer au lieu de les fouler à les écraser et de les suffoquer faute d'air. Au milieu de cette chambre, deux serruriers avec leurs marteaux se tenaient près d'une enclume. Hugues alla droit à eux et plaça son pied si hardiment sur l'enclume qu'il la fit résonner comme sous le coup de quelque arme pesante. Puis, croisant les bras, il resta debout pour se faire ôter ses fers, promenant hautement dans la salle ses yeux menaçants sur ceux qui étaient là à le dévisager en se chuchotant à l'oreille. On perdit tant de temps à traîner Dennis que la cérémonie était finie pour Hugues et presque pour Barnabé avant qu'il parût. Cependant, il ne fut pas plus tôt à cette place qu'il connaissait si bien et au milieu de figures qui lui étaient si familières qu'il retrouva assez de force et de sentiment pour joindre les mains et faire un dernier appel à la pitié.
« Messieurs, mais bon messieurs !» cria cette abjecte créature rampant sur ses genoux et finissant par se jeter tout de son long étendu sur les dalles. « Gouverneur, cher gouverneur, honorable shérif, mes dignes gentlemen, prenez pitié d'un pauvre homme qui a vécu au service de sa majesté, de la justice, du parlement, et ne me laissez pas mourir par une méprise.
« Dennis, dit le gouverneur de la prison, vous savez bien comment tout cela se fait, et que le mandat d'exécution est venu pour vous en même temps que pour les autres. Vous savez bien que nous n'y pouvons rien changer, quand nous en aurions l'envie.
« Tout ce que je demande, monsieur, tout ce que je demande et ce que je désire, c'est du temps pour qu'on s'assure du fait !»
cria le pauvre diable tout tremblant en jetant de tous côtés un regard qui implorait la sympathie.
« Le roi et le gouvernement ne peuvent pas savoir que c'est de moi qu'il s'agit. Sans cela, ils n'auraient jamais le cœur de m'envoyer à cette affreuse boucherie. Ils ont vu mon nom, mais ils ne savent pas que c'est moi. Retardez mon exécution, par charité, retardez mon exécution, mes bons messieurs du bon Dieu, jusqu'à ce qu'on soit allé leur dire que c'est moi qui suis bourreau, ici, depuis près de 30 ans. Quoi, n'y a-t-il personne qui veuille aller le leur dire ?»
Et en même temps, il pressait ses mains d'un air suppliant et regardait tout autour, bien des fois.
« N'y a-t-il pas une âme charitable qui veuille aller le leur dire ?»«
Monsieur Ackerman,
dit un monsieur qui se trouvait là près de lui après un moment de silence. Comme il ne serait pas impossible que cette certitude rendît à ce malheureux homme un peu du calme désirable en un pareil moment, voulez-vous me permettre de lui donner l'assurance qu'on n'ignorait pas, quand on a rendu la sentence, que c'était bien lui qui était le bourreau ?
Oui, mais en ce cas, peut-être n'auront-ils pas cru la peine si forte, s'écria le criminel, se traînant aux genoux de l'interlocuteur pour le saisir de ses deux mains, tandis qu'elle est plus forte pour moi, 100 fois pire que pour tout autre. Faites-leur savoir ça, monsieur. Ils m'ont puni plus sévèrement, rien qu'en m'infligeant la même peine. Retardez mon exécution jusqu'à ce qu'ils le sachent.
Le gouverneur fit un signe et les deux hommes qui l'avaient soutenu s'approchèrent. Il poussa un cri perçant.
« Attendez, attendez! Un seul moment encore!
Laissez-moi cette dernière chance de sursis. Il y en a un de nous trois qui doit aller à Bloomsbury Square.
Permettez que ce soit moi! Le sursis peut venir pendant ce temps-là. Je suis sûr qu'il va venir. Au nom du ciel, permettez qu'on m'envoie à Bloomsbury Square. Ne me pendez pas ainsi. C'est un assassinat !»
On lui mit le pied sur l'enclume. Mais là même, on entendait ses vociférations au-dessus du fracas des marteaux entre les mains des serruriers et de la rage enrouée de la foule. Il criait qu'il connaissait la naissance de Hugues, que son père était vivant et que c'était un gentilhomme d'une naissance et d'un rang distingués, qu'il possédait des secrets de famille importants, qu'il ne pouvait les révéler si on ne le lui en donnait pas le temps et qu'on le forcerait à mourir en les ayant sur la conscience. Enfin, il ne cessa de déraisonner que lorsque la voix lui manqua, et qu'il tomba comme un paquet de linge sale entre les mains de ses deux gardiens. C'est à ce moment que l'horloge frappa le premier coup de midi et que la cloche de la prison commença à tinter. Les différents employés de la prison, avec deux shérifs à leur tête, se mirent en marche vers la porte. Tout était prêt quand le dernier coup de l'heure frappa les oreilles. On en avertit Hugues en lui demandant s'il n'avait pas quelque chose à dire.
« À dire ? » s'écria-t-il. « Moi, non, je suis tout prêt. » « Ah, mais si !»
ajouta-t-il en jetant les yeux sur Barnabé.
« J'ai un mot à dire, en effet. Viens ici, mon garçon !»
Il y avait en ce moment quelque chose de bon, même de tendre, en désaccord avec son visage farouche, quand il saisit son pauvre camarade par la main.
« Voilà ce que j'ai à dire »
cria-t-il en regardant d'un œil ferme autour de lui.
« C'est que, quand j'aurai 10 vies à perdre, et que la perte de chacune d'elles devrait me donner 10 fois l'agonie de la mort la plus douloureuse, « je les donnerai toutes, oui, messieurs, là-bas, qui avaient l'air de ne pas me croire. Je les donnerai toutes, les 10, pour sauver seulement celle-là, »
répéta-t-il en serrant encore la main de Barnabé,
« celle qu'il va perdre par ma faute. »«
Ce n'est pas votre faute, » dit l'idiot avec douceur.
« Ne dites pas ça. Il n'y a pas de reproche à vous faire. Vous avez toujours été très bon pour moi, Hugues. Nous allons enfin savoir qu'est-ce qui fait briller les étoiles à présent. » Je l'ai enlevé à sa mère, par surprise, sans savoir qu'il dût en résulter tant de mal, dit Hugues, lui posant la main sur la tête et parlant d'un ton de voix moins élevé. Je la prie de me pardonner. Et toi aussi, Barnabé.
Tenez, ajouta-t-il avec énergie,
regardez, voyez-vous bien ce garçon-là?
Oui, oui, murmura-t-on de tous côtés, sans trop savoir pourquoi cette question.
Le gentleman de là-bas,
il montra l'aumônier, m'a souvent entretenu ces jours derniers de foi et de ferme croyance. Vous voyez tous ce que je suis. Plutôt une brute qu'un homme. On me l'a dit assez de fois. Eh bien, avec tout cela, j'avais assez de foi pour croire. Et je l'ai cru aussi fortement que pas un de vous, messieurs, peut croire quelque chose, que cette vie-là, du moins, serait épargnée. Voyez-le, regardez-le.
Barnabé avait fait un pas vers la porte où il se tenait debout en lui faisant signe de le suivre.
Si ce n'était pas là de la foi, si ce n'était pas là une ferme croyance,
cria Hugues, tenant son bras étendu en avant et levant les yeux au ciel, dans l'attitude d'un prophète sauvage que l'approche de la mort a rempli d'une inspiration fatidique,
alors c'est qu'il n'y en a pas. Quel autre sentiment pouvait m'apprendre, avec une naissance comme la mienne et une éducation comme celle que j'ai reçue, à espérer encore de la pitié dans ce lieu barbare, cruel, impitoyable? Moi qui n'ai jamais joint les mains pour prier, j'invoque sur cette boucherie humaine la colère de Dieu. Sur cet arbre de deuil dont je vais être le fruit mûr suspendu à la branche qui m'attend, j'appelle la malédiction de toutes ces victimes, passées, présentes et à venir, sur la tête de l'homme qui, dans sa conscience, sait bien que je suis son fils. Je dépose le vœu qu'il ne meure pas dans son lit de duvet, mais de mort violente comme moi. et qu'il n'ait pas d'autre pleureur à ses funérailles que le vent de la nuit. Et là-dessus, ainsi soit-il, ainsi soit-il. »
Son bras retomba à son côté, il se retourna et se dirigea vers eux d'un pas assuré. Il était redevenu le même homme qu'auparavant.
« Vous n'avez rien de plus à dire ?» reprit le gouverneur.
Hugues fit signe à Barnabé de ne pas l'approcher, sans porter les yeux de son côté, et répondit
« Rien de plus. En avant !»«
À moins, » dit Hugues, jetant avec vivacité un regard derrière lui, « à moins qu'il n'y ait parmi vous quelqu'un qui ait envie d'un chien, mais encore à la condition qu'il le traitera bien. J'en ai un qui m'appartient dans la maison d'où je viens, et il serait difficile d'en trouver un meilleur. » Il commencera bien par grogner un peu, mais ça passera. « Cela vous étonne que je pense à un chien dans un moment comme ça, » ajouta-t-il presque en riant. « Mais voyez-vous, si je connaissais un homme qui le mérita seulement à moitié autant que lui, ce n'est pas au chien que je penserais. »
Il n'ajouta plus un mot et alla prendre sa place d'un air insouciant, tout en écoutant cependant le service des morts avec quelque chose comme une attention sombre ou une curiosité vivement excitée. Aussitôt qu'il eut passé la porte, on emporta son misérable compagnon de supplice, et la foule vit le reste. Barnabé aurait volontiers monté les marches en même temps qu'eux, il avait même voulu les devancer, mais on le retint les deux fois, parce que c'était ailleurs qu'il devait subir sa peine. Quelques minutes après, les shérifs reparurent, la même procession reprit sa marche à travers un grand nombre de passages et de corridors pour passer par une autre porte où la charrette attendait. Il baissa la tête pour éviter de voir ce qu'il savait bien que ses yeux ne manqueraient pas de rencontrer sans cela, et s'assit tristement, quoiqu'avec un certain orgueil et une certaine joie d'enfant, sur le véhicule. Les aides prirent leur place à côté, devant et derrière. Les voitures des shérifs vinrent après, un détachement de soldats entoura le tout, et on se mit lentement en route, à travers les rangs pressés de la foule, pour arriver à la maison en ruine de Lord Mansfield. C'était bien triste à voir. Tout cet appareil, toute cette force déployée, toutes ces baïonnettes étincelantes autour d'une créature sans défense. Mais ce qui était plus triste encore, c'était de remarquer comme tout le long du chemin, ses pensées errantes trouvaient un étrange encouragement dans le spectacle de ces fenêtres garnies de curieux et de la multitude qui encombrait les rues. C'était d'observer comme dans ce moment-là même, il se montrait sensible à l'influence du beau ciel bleu dont il semblait chercher à pénétrer le sourire sur les lèvres, la profondeur impénétrable. Mais on avait déjà vu tant de scènes pareilles depuis la fin des émeutes. On en avait vu de si attendrissantes, de si repoussantes, qu'elles avaient bien plutôt réussi à éveiller la pitié pour les victimes que le respect de la loi, dont le bras rigoureux semblait, dans bien des cas, s'être appesanti avec autant de barbare plaisir, une fois le danger passé, qu'elle s'était montrée lâchement paralysée dans le péril de la crise. Deux boiteux, deux vrais enfants, l'un avec une jambe de bois, l'autre traînant à l'aide d'une béquille ses membres tout tortillés, furent pendus à cette même place de Bloomsbury Square. Quand la charrette fut au moment de glisser sous leurs pieds pour consommer leur supplice, on s'aperçut qu'ils tournaient le dos au lieu de tourner la face à la maison qu'ils avaient aidé à piller, et on prolongea leur angoisse pour réparer cet oubli. On pendit aussi dans Bow Street un autre petit garçon, d'autres jeunes gars eurent le même sort dans divers quartiers de la ville, quatre malheureuses femmes furent mises à mort. En un mot, ceux qu'on exécuta comme insurgés n'étaient guère pour la plupart que les plus faibles, les plus vulgaires, les plus misérables d'entre eux. La meilleure satire qu'on pût faire du fanatisme hypocrite qui avait servi de prétexte à tous ces maux, c'est qu'un certain nombre de ces malheureux déclarèrent qu'ils étaient catholiques et demandèrent des prêtres de cette religion pour les assister à leur dernier moment. On pendit dans Bishopsgate Street un jeune homme dont le vieux père, avec sa tête grise, attendait son arrivée au pied de la potence pour l'embrasser et s'assit là par terre jusqu'à ce qu'on eût descendu le corps. On lui aurait bien fait cadeau du cadavre de son fils, mais il n'avait ni corbillard, ni bière, ni rien pour l'emporter. Il était trop pauvre. Il fallut qu'il se contentât de la satisfaction de marcher tout bonnement à côté de la charrette qui ramenait son enfant à la prison, essayant, le long du chemin, de toucher au moins sa main sans vie. Mais la foule avait oublié ces détails, ou, si elle n'en avait pas perdu la mémoire, elle ne s'en souciait guère. Et pendant qu'une multitude nombreuse se battait et tempêtait pour s'approcher du gibet devant Newgate, afin d'y jeter un dernier coup d'œil avant de s'en séparer. Il y en avait une autre qui suivait l'escorte du pauvre Barnabé pour aller grossir la foule qui l'attendait sur les lieux.